2 Rois, chapitre 4, les versets 8 à 16. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 16. Au nom de Jésus. Une autre fois, Élisée était passé par le village de Shunem. Il y avait là une femme riche qui avait insisté pour qu'il vienne prendre un repas chez elle. C'est pourquoi, depuis ce jour, Élisée allait toujours manger chez elle quand il passait dans cette région. Cette femme dit à son mari, « Je suis sûr que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint prophète de Dieu. Nous devrions construire une petite chambre en haut de la maison et y mettre pour lui un lit, une table, un siège et une lampe. Il pourrait loger là quand il passerait chez nous. » C'est ainsi qu'un jour Élisée vint chez ces gens et monta dans la petite chambre pour y passer la nuit. Puis il dit à son serviteur Gehazi d'aller chercher la maîtresse de maison. Lorsque celle-ci se présenta devant la chambre, Élisée chargea Gehazi de lui dire « Tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi ? Peut-on intervenir en ta faveur auprès du roi ou du chef de l'armée ?»« Non, merci, répondit-elle. Au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. » Élisée dit alors à Gehazi, « Que faire pour elle ?»« Eh bien, répondit Gehazi, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » « Rappelle-la donc, dit Élisée. » Lorsqu'elle se présenta sur le pas de la porte, Élisée lui déclara, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Mais elle s'écria, « C'est impossible. Toi qui es prophète de Dieu, ne me dis pas un mensonge. » Cependant, cette femme devint enceinte, et à la même époque, l'année suivante, elle mit au monde un fils conformément à ce qu'Élisée lui avait annoncé. Amen. Je vais vous demander ce matin, qui parmi vous connaît ce personnage Élisée ? Vous connaissez Élisée ? Vous en avez déjà un peu entendu parler ? Je le dis parce que, une fois à la faculté de théologie à Strasbourg, on a discuté autour de ça et j'étais étonné des étudiants au niveau master qui n'a jamais lu l'histoire d'Élisée, qui pourtant est au niveau master en théologie. C'est une histoire très intéressante. Et pour comprendre le texte que nous avons ce matin, nous devons d'abord parler un peu sur ce prophète. Avant qu'Élie monte au ciel, Élie, il a été envoyé par l'Éternel pour trouver celui qui va le remplacer, pour trouver la personne qui doit le succéder. Et voilà, il est tombé sur un laboureur. Élisée était un laboureur. Et Dieu a dit, c'est lui qui va te remplacer. Alors Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il passa à côté de lui. C'est étonnant comme histoire. Il passait à côté de lui pendant qu'il labourait le champ. Donc, ils n'ont rien dit. Élisée était en train de labourer. Et Élie fait semblant de passer. Et tout à coup, il jeta son manteau sur lui et le voilà devenu prophète. Pendant qu'il travaillait, est-ce ainsi comment Dieu choisit ses prophètes? On pourrait dire, mais c'est du n'importe quoi. Mais c'est comme ça. Alors voilà qu'il est devenu prophète et il commençait à suivre Élie, puisqu'il a fallu une petite formation avant que Élie soit élevé vers le ciel. Et quand Élie fut élevé vers le ciel, rappelez-vous de l'histoire, un détail qu'il ne faut pas oublier, sa cape est tombée. Et Élisée l'a récupérée, cette cape à qui on a fait l'ordination, la consécration. Il frappa, Élie utilisait cette cape, il frappa l'eau du Jourdain, pour traverser. Et ce geste a été vraiment quelque chose qui a marqué Élisée, et il ne croyait pas encore à sa consécration. Suis-je vraiment celui qui doit remplacer Élie, ce grand Élie qui a été élevé vers le ciel par un char de feu? Il a testé, en revenant, il a frappé l'eau du Jourdain avec la cape, et voilà l'eau du Jourdain qui se séparait en deux. C'est là qu'il s'est dû rendre compte qu'il est vraiment un prophète. À sa grande surprise. La leçon que moi j'ai retirée dans tout cela, c'est que, voilà, Élie part, mais l'œuvre de Dieu reste. Le grand Élie est parti, mais un simple laboureur l'a remplacé. L'œuvre de Dieu ne se termine pas avec le départ d'Élie. Au contraire, Élisée plus tard, si vous lisez l'histoire d'Élisée dans le livre des Rois, vous serez étonné comment Dieu a utilisé ce simple laboureur. Ce lien intime qui existait entre les deux prophètes est très important de le savoir pour comprendre notre histoire sous les yeux aujourd'hui. Alors, selon moi, il faut faire une relecture de ce récit en parallèle avec l'histoire d'Élie, parce que les deux personnages sont liés. Alors, reprenons l'histoire d'Élisée de tout à l'heure et mettons à côté Élie. Élisée, il vient manger assez souvent chez une femme aisée qui habitait à Shunem. De l'autre côté, rappelez-vous l'histoire d'Élie, Élie, lui, il était hébergé par aussi une autre femme. La femme pauvre cette fois-ci. Élisée a été hébergé par une femme riche, aisée. Or, Élie a été hébergé par une femme pauvre, une veuve, à Sarepta. Élisée, on lui a supplié de venir chez elle pour manger, pour dormir. Contrairement à Élie, qui a un peu forcé la main de la veuve. Qui dit, fais-moi à manger, parce qu'il n'y avait presque rien. Deuxièmement, la femme du village de Shunem n'avait pas d'enfant, parce qu'il est décrit ici, son mari était âgé. De l'autre côté, Élie, la veuve avait un fils, mais elle perd son fils le soir qu'Élie est venu manger chez elle, contrairement à Élisée. Élisée vient le soir chez elle et lui a promis qu'elle aura un fils. Vous voyez ? On dirait que c'est deux choses vraiment complètement différentes. Troisième chose, la phrase prononcée par la femme au temps d'Élisée est le suivant. Quand Élisée a dit « tu auras un fils », c'est impossible. Toi qui es prophète de Dieu, ne me dis pas un mensonge, pour traduire un peu, tu es un menteur. Contrairement à la phrase de la femme de Sarepta, prophète de Dieu, pourquoi m'as-tu fait cela? Es-tu venu pour me rappeler mes fautes à Dieu et provoquer ainsi la mort de mon fils? Voilà, deux récits très opposés. Pourtant, Dieu a choisi les deux en même temps. Donc, si on va essayer de mesurer la vocation ou l'appel d'Élisée en fonction de celui d'Élie, nous allons nous tromper. Élisée est un serviteur de Dieu à part. Élie, il a reçu un autre appel à part. C'est intéressant de voir comment Dieu traite ses serviteurs. Et par rapport à Élisée, Élie avait un charisme et une mission assez imposante, importante. Mais à côté de cela, Dieu lui a imposé une vie très humble. Parce que ce grand prophète a été nourri par une veuve et par un corbeau. Contrairement à Élisée, qui n'était rien du tout au départ, un simple laboureur, mais qui a été pris en charge par une femme aisée. Pour Élie, Dieu a désigné une femme riche pour, en quelque sorte, pour Élisée, pardon, renforcer l'assurance que Dieu l'a vraiment choisi. La manière dont le Seigneur traite ses serviteurs est vraiment magnifique et est complètement différent. Mais cela ne signifie pas que Dieu fait deux poids deux mesures. Sur le plan charisme, Dieu agit de façon originale sur chaque serviteur de Dieu. Le charisme qu'il a donné à un serviteur, il ne va pas lui donner à l'autre. Donc si nous voulons chercher le même charisme chez tous les serviteurs de Dieu, nous faisons fausse route. Et c'est cela qui est magnifique avec le Seigneur. Il nous fait découvrir ses richesses à travers des différentes personnalités des hommes et des femmes de Dieu. C'est l'ensemble de tout cela qui fait la richesse du royaume de Dieu. À un certain moment, les disciples du Christ aussi se sont chamaillés car il y avait une petite rivalité entre eux. Qui sera le plus grand? Qui s'assoira à la droite et à la gauche du Fils de l'homme? Au temps de Paul, au sein de la même église, il y avait ceux qui étaient plutôt favorables à Paul, d'autres qui étaient favorables à Apollos, parce qu'Apollos, lui, il savait bien parler. D'autres à Pierre, etc. Oui, depuis toujours, la vie de l'Église a été malheureusement toujours ainsi, depuis le début. Mais ce que j'ai bien aimé chez Élie et Élisée, c'est cette acceptation de la place que Dieu les avait donnée. Pour Élie, quand il fallait partir, il a laissé sa cape et il l'a confiée à Élisée. C'est pas facile pour Élie de céder sa place. C'est un symbole important pour nous chrétiens aujourd'hui aussi, cette histoire. Qu'il y a une sorte de continuité dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne meurt pas et ne se termine pas avec le serviteur de Dieu. L'œuvre de Dieu continue et il peut choisir qui il veut. Un peu comme Élisée qui était là pour juste labourer le champ. Et Élie ne faisait que passer. Et là, tout à coup, sans aucune explication, Élie a mis sa cape sur Élisée. Et voilà qu'il commençait à suivre Élie. Et ce qui est encore plus frappant dans le texte que nous avons ici, c'est l'intuition, qu'avait la femme. Elle ne savait pas, mais elle avait cette intuition. Verset 9, « Je suis sûr que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint prophète de Dieu. » Donc, souvent, Élisée passait, mais elle avait cette intuition en elle. Il n'a pourtant rien dit et rien fait, mais cette femme avait une certitude qu'Élisée était vraiment un prophète. Et si elle a pris l'initiative de donner à manger à ce prophète et d'aménager une petite pièce en haut pour lui, lorsqu'il est de passage, ce geste n'a pas été fait dans l'attente d'une quelconque bénédiction. Ça a été fait de façon désintéressé. La preuve, lorsqu'Élisée a envoyé Géasi pour lui demander s'il y a quelque chose qu'elle souhaiterait avoir en guise de remerciement de la part d'Élisée, elle a répondu non, merci. Au lieu de dire oui, j'ai un problème, parce qu'elle avait un problème, mais elle n'a pas demandé. Elle l'a fait de façon gratuite. Ça, c'est vraiment un esprit de service. Et c'est cet esprit de service-là qui manque aujourd'hui dans nos églises, dans nos institutions, dans tous les secteurs ou institutions que Dieu a mis. Servir sans rien attendre. Servir, donner sa vie pour le Christ sans attendre une bénédiction. La plupart, Seigneur, je t'ai donné une partie de mes richesses. Je t'ai donné ma jeunesse, je t'ai donné mon temps. J'espère que tu vas me répondre avec toutes mes listes de prières chaque soir, d'ici quelques mois. Oui. Hélas, nous fonctionnons ainsi. Oui, la femme aurait pu profiter de la situation pour faire passer sa demande qui pourtant, elle ne l'a pas fait. Mais pour elle, c'était inimaginable aussi, déjà, vu l'âge de son mari, qu'elle puisse encore avoir d'enfants. Elle savait qu'Élisée était un prophète de Dieu, mais pas au point d'être capable de lui donner un enfant. Et elle avait même des mots très durs contre le prophète, qui pourtant elle le respectait bien. Elle dit « Non, c'est du mot, t'es un menteur. » Je pense que là, le prophète vient de toucher une partie sensible dans la vie de cette femme. On peut parler de tout, mais pas ça, car ça fait mal. Et c'est comme ça aussi parfois dans nos vies. Quand Dieu entre dans notre vie, c'est là où il fait mal qu'il veut entrer. C'est pas là où tout est calme, tout est déjà nickel. Là où ça fait mal, c'est là qu'il veut intervenir. Mais même avec Élie, quand l'Éternel envoie ses prophètes, leurs passages ne sont pas juste une formalité. Ils touchent là, là où ça fait mal. Non pas pour les accabler, mais au contraire pour apporter une solution durable. Dans nos vies aussi, il y a un petit coin, une partie de nous qui fait mal et qu'on n'aime pas trop qu'on y touche. C'est notre jardin secret. Même Dieu ne peut pas y entrer. Mais parfois, pour ne pas dire souvent, que c'est le Seigneur qui veut entrer et arranger les choses. Oui, le Seigneur nous connaît trop bien. Il sait nos attentes les plus cachées, les plus enfouies en nous. Alors laissez-vous toucher par sa parole. Il ne vient pas pour vous perturber, au contraire, il veut vraiment entrer dans notre vie pour réparer cela, pour restaurer et pour guérir certaines plaies de longue date, cachées quelque part dans vos cœurs. Et ce qu'il nous veut, il dit « Ouvre ton cœur à moi et je serai ton roi. » Amen.